Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première édition de notre podcast consacré à l'histoire, le cabinet d'histoire. Une rencontre dans laquelle nous aborderons la vie de Benito Mussolini, dictateur du régime fasciste italien dans les années 1920 à 1940. Je suis en compagnie de Rose ainsi que Méline, et aujourd'hui, nous allons vous raconter en détail la vie de l'homme d'État italien, Benito Mussolini. Nous débuterons par une présentation du personnage pour aborder ensuite plus en détail certains faits marquants du régime fasciste italien, comme ont pu l'être la marche des chemises noires en compagnie de Monsieur Alibert, spécialiste de l'histoire italienne et professeur au lycée Bossier, la volonté impériale avec la guerre en Éthiopie avec Rose, ainsi que les lois fascistissimes avec Méline. Benito Mussolini, né le 29 juillet 1883 à Predappio et mort le 28 avril 1945 à Giulino di Mezzagara, est un journaliste, idéologue et homme d'État italien. Fondateur du fascisme, il est président du Conseil du Royaume d'Italie du 31 octobre 1922 au 25 juillet 1943, premier maréchal d'Empire du 30 mars 1938 au 25 juillet 1943, et chef de l'État de la République sociale italienne de septembre 1943 à avril 1945. Il est d'abord membre du Parti socialiste italien, puis président de celui-ci, et directeur du quotidien socialiste Avanti à partir de 1912. Anti-interventionnaliste convaincu avant la Première Guerre mondiale, il change d'opinion en 1914, se déclarant favorable à l'entrée en guerre de l'Italie. Expulsé du PSI en novembre 1914, il crée son propre journal, Il Popolo d'Italia, le peuple d'Italie, qui prend des positions nationalistes proches de celles de la petite bourgeoisie. Dans l'immédiate après-guerre, profitant du mécontentement de la victoire mutilée, il crée le Parti National Fasciste, le PNF, en 1921 et se présente au pays avec un programme politique national, autoritaire, antisocialiste et antisyndical, ce qui lui vaut l'appui de la petite bourgeoisie et d'une partie des classes moyennes industrielles. Dans le contexte de forte instabilité politique et sociale qui suit la Grande Guerre, il vise la prise de pouvoir en forçant la main aux institutions avec l'aide des paramilitaires et utilisant l'intimidation qui culminait le 28 octobre 1922 avec la marche des chemises noires sur Rome. Mussolini obtient alors la charge de constituer le gouvernement le 30 octobre 1922. En 1924, après la victoire contestée des élections et l'assassinat du député socialiste Giacomo Matteotti, Mussolini assume l'entière responsabilité de la situation. La série des lois fascistissimes lui attribue, à partir de 1925, des pouvoirs dictatoriaux et fait de l'Italie un régime fasciste à parti unique qui pratique la propagande, l'embrigadement de la jeunesse et le culte de la personnalité du chef, le Duce. Il tente également de retrouver la gloire impériale de la Rome antique et se lance à la conquête de l'Éthiopie. En 1935, il se rapproche du régime nazi d'Adolf Hitler, avec qui il établit le pacte d'acier en 1939. Convaincu d'un conflit à l'issue rapide, il entre dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne nazie. Les défaites militaires de l'Italie et le débarquement des Alliés sur le sol italien entraînent sa mise en minorité par le Grand Conseil du fascisme le 24 juillet 1943. Il est alors destitué et arrêté par un ordre du roi. Libéré par les Allemands, il instaure en Italie septentrionale la République socialiste italienne. Le 25 avril 1945, alors qu'il tente de fuir, déguisé en soldat allemand, il est capturé par un groupe de partisans. Il est ensuite fusillé avec sa maîtresse, Clara Petacci. Leurs corps sont livrés à une foule en colère et pendus par les pieds au carrefour de la Piazzale Loreto à Milan. Écoutons à présent Monsieur Alibert sur la marche des chemises noires sur Rome qui marque le début de la prise de pouvoir de Mussolini en Italie.
La marche sur Rome, ou marcia su Roma en italien, constitue un des événements politiques les plus importants du XXe siècle, non seulement pour l'Italie, mais également pour l'Europe entière. Comme son nom l'indique, il s'agit véritablement d'une marche dans et vers la capitale italienne par les groupes fascistes menés par Benito Mussolini. Cette marche a lieu le 28 octobre 1922. Les fascistes, ou chemise noire, tous en tenue paramilitaire, sauf Mussolini, qui lui est en civil, accompagné donc de ses fameux faisceaux, fasci, défile à l'intérieur de la ville de Rome. Il porte donc les célèbres chemises noires, s'emparées de décorations reprenant des symboles forts de la gloire romaine passée, par exemple la louve, le faisceau ou encore l'aigle romaine. Le fameux faisceau, ou fascio en italien, nom issu de fascio littorio, le faisceau du licteur de la légion romaine, c'est-à-dire cet ensemble de verges liées entre elles, incluant une hache, qui sont des instruments de punition. Ce fameux faisceau, donc, donne naissance au mot fascisme, fasciste, fascio, fascista en italien. Cette marche, donc, du 28 octobre 1922, a avant tout pour but d'impressionner le gouvernement en place, de faire pression sur la classe politique. Le contexte de crise dans laquelle l'Italie d'après-guerre, d'après Première Guerre mondiale, se trouve, c'est-à-dire des tensions entre classes sociales, un État libéral affaibli, est l'un des facteurs de la montée du fascisme et de sa conquête, finalement pas si difficile, du pouvoir, entre autres par la marche sur Rome. Cette marche n'est à l'origine qu'un instrument de pression, illégal, il faut le souligner, sur le gouvernement. Elle assure à Mussolini un accès facilité et sans contestation, véritablement facile, au pouvoir politique. La marche est donc un moment capital pour les faisceaux italiens, fasci italiani, puisque ce n'est pas directement par elle que Mussolini arrive au pouvoir, mais ce sont les dirigeants en place, le gouvernement, qui lui confie ce pouvoir même. La marche su Roma est, d'une certaine façon, une sorte d'insurrection. Alors que Mussolini est appelé à la tête du gouvernement, son but premier est de rassurer l'opinion italienne. Après ce coup de force, incarné par la marche sur Rome, il ne cherche pas à s'imposer avec violence, ni d'imposer véritablement, dans les premières années, une dictature, mais tente d'apparaître comme l'homme capable d'incarner l'autorité, tout en œuvrant à la mise en place d'une paix sociale, une sorte de normalisation, de retour à la normale. En effet, cette victoire politique des fascistes entraînera d'énormes répercussions à la fois sur l'organisation de l'État italien, avec, 3 ans plus tard, en 1925, l'instauration de la dictature fasciste, réellement, une dictature qui ne prendra fin que 20 ans plus tard, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Merci beaucoup, monsieur Alibert. Je vous propose dorénavant d'écouter Rose à propos de la conquête de l'Éthiopie par le régime fasciste de Mussolini.
Nous allons revenir sur un épisode assez méconnu du régime de Mussolini. Il s'agit de la conquête de l'Éthiopie par son régime, ou aussi appelée la crise d'Abyssinie, qui est l'ancien nom de l'Empire d'Éthiopie. Alors cette crise, ou même cette guerre, elle a eu lieu entre le 3 octobre 1935 et le 5 mai 1936. Fasciné par l'Empire romain, Mussolini a de grands projets d'expansionnisme pour l'Italie. C'est ce fantasme de retrouver la grandeur de l'Empire romain autour de la mer Méditerranée qui le pousse notamment à effectuer de nouvelles conquêtes. Le pays a déjà tenté de conquérir l'Abyssinie, donc ancien nom de l'Éthiopie, à la fin du XIXe siècle, mais cela s'est révélé être un total échec. Et cet échec a quand même laissé un goût amer à l'Italie, pour qui cette conquête est restée un objectif à réaliser dans la tradition nationaliste italienne. De son côté, l'Éthiopie est indépendante et elle est, au même titre que l'Italie, membre de la Société des Nations. À sa tête, on retrouve l'empereur Haïlé Sélassié qui y règne depuis 1930. En fait, on comprend qu'il veut constituer un empire colonial pour l'Italie.
Che il mondo sia informato. Orbene! Nella notte italiana.
Pourquoi choisit-il l'Éthiopie? En fait, il s'agit du dernier État africain qui a jusqu'ici échappé à la colonisation européenne et qui est encore indépendant. Il utilise le prétexte de mettre fin aux fréquents incidents de frontières. Mussolini voulait implanter des colons sur les plateaux agricoles. à ses yeux, l'Éthiopie est, citation, un pays africain universellement reconnu comme barbare et indigne de figurer parmi les peuples civilisés. Fin de citation. La Société des Nations tente d'intervenir pour régler pacifiquement le conflit, mais malheureusement, aucune solution n'est trouvée. Et c'est de cette façon que le 3 octobre 1935, Mussolini lance un assaut de 400 000 hommes à partir de deux fronts, à partir des bases italiennes d'Érythrée et de Somalie, au nom de la restauration de l'Empire, et il fait ici référence à l'Empire romain qu'il idéalise et dont il souhaite retrouver la grandeur. Il se dit être d'une colonisation qui est juste, mais en vérité, ce qu'il se passe sur le terrain est de l'ordre du génocide. Alors que l'empereur Sélassié mobilise ses troupes pour conserver leur indépendance, et donc résiste avec leurs armes archaïques, les Italiens utilisent de nouvelles armes, autant du bombardement que de l'aviation, même avec des chars, jusqu'à l'arme chimique. Le 9 mai, Mussolini annonce officiellement l'annexion de l'Éthiopie et la création d'un empire italien d'Afrique orientale. Désormais, c'est le roi Victor Emmanuel III qui est proclamé empereur d'Éthiopie, tandis que Sélassié s'exile à Londres. Alors tous ces événements sont bons pour la propagande de Mussolini, qui montre que le peuple italien est un peuple conquérant, voire même supérieur. Le 30 juin, dans son discours à la Société des Nations à Genève, Sélassié dénonce l'illégalité de l'agression italienne, ainsi que l'usage de l'arme chimique, et plus spécifiquement l'emploi du gaz moutarde par l'aviation italienne. Entre-temps se met en place une politique d'apartheid en Éthiopie. On fait une distinction, et c'est même plus que cela, c'est une réelle séparation entre les indigènes et les nouveaux colons. Le métissage est prohibé en Éthiopie et l'espace social est complètement fracturé. Tous ces événements mènent à des vengeances. Par exemple, en février 1937, la capitale éthiopienne Addis Abeba célèbre la naissance du petit-fils du nouveau roi, donc italien, Victor Emmanuel III. Le vice-roi d'Éthiopie Gradiani est présent. C'est alors que deux Éthiopiens lancent des grenades sur l'estrade, faisant 7 morts et 50 blessés. En conséquence, durant les 3 jours suivants, des commandos fascistes ont massacré des milliers de civils et de soldats, et plus tard des religieux. Le tout avec des exécutions, des pendaisons et même des viols. Finalement, c'est en mai 1941, grâce à la victoire des Britanniques face aux Italiens, qui permet de restituer l'Éthiopie à Sélassié et au peuple.
Écoutons à présent Méline à propos des lois fascistissimes mises en place par Mussolini.
Nous allons parler d'abord des lois fascistissimes qui sont au nombre de 5, chacune instaurée entre le 26 novembre 1925 et le 25 novembre 1926. Celles-ci mettent en place de nombreuses mesures strictes. Le Parti National Fasciste, PNF, est l'unique parti admis. Le chef du gouvernement doit rendre compte de son action seulement auprès du roi et non plus devant le Parlement, dont le rôle est réduit à une simple représentativité. Le Grand Conseil du Fascisme, présidé par Mussolini, est composé de vrais notables du régime et il est l'organe suprême du parti fasciste et donc de l'État. Toutes les associations de citoyens sont soumises au contrôle de la police, les seuls syndicats reconnus sont fascistes et interdisent notamment les grèves et les réunions. Enfin, toute la presse est soumise à la censure. La diffusion de fausses informations exagérées ou tendancieuses pouvant nuire au prestige de l'État ou aux intérêts nationaux entraîne la réclusion de 5 à 15 ans, l'interdiction d'intégrer une fonction publique, la perte immédiate de la citoyenneté et la confiscation des biens. Ces lois ont des conséquences importantes. En effet, le régime change de nature. Le 9 novembre 1926, les députés antifascistes sont déchus de leur mandat, les journalistes sont mis au pas. Les principes de l'État corporatif sont énoncés par la Charte du travail du 21 avril 1927. Les institutions de l'État sont organiquement soumises au parti fasciste par la loi de la représentation politique du 17 mai 1928, le Grand Conseil du fascisme devenant le principal organe dirigeant. Finalement, la Chambre des députés sera abolie en 1939, remplacée par la Chambre des faisceaux et des corporations. Cependant, on constate une faible représentativité des opposants à la dictature. Pour les antifascistes a été mis en place le confino, une assignation à résidence. Et toute personne s'opposant au régime s'expose à une violence extrême. On dit même qu'une chape de plomb s'est abattue sur le pays à partir de 1926. Au début des années 1930 se développe une agitation irrégulière provoquée dans certaines villes due à la hausse du prix et de la montée du chômage. Il y a de nombreuses interventions policières avec des perquisitions ou encore des saisies d'armes et de matériel destinés à la propagande antifasciste. Du milieu de l'année 1930 à la fin de 1934, période qui coïncide avec la phase de la Grande Dépression et de la crise économique, la police politique a procédé à de nombreuses arrestations pour la plupart des militants du PCI et du mouvement antifasciste Giustizia et Liberté. Alors que la Seconde Guerre mondiale ne faisait que commencer, le fascisme n'aura pas été favorable aux Juifs. Pourtant, leur situation pouvait être perçue comme favorable au départ. D'une part, les Juifs italiens dans leur ensemble ne s'opposèrent pas plus à la naissance ou à la saisie du pouvoir par les fascistes que les autres Italiens. D'autre part, de nombreux intellectuels et membres de la minorité sioniste ont choisi de ne pas soutenir le fascisme car y adhérer signifiait se sentir italien de la région juive, alors que le sionisme supposait une séparation nette entre le peuple juif et les autres. Les Juifs adhérents au parti fasciste étaient donc en grande partie anti-sionistes. Néanmoins, la très grande majorité des Juifs italiens, 90% d'entre eux, n'adhèrent pas au parti fasciste. Mussolini fait donc face à une forte opposition en 1933 et dans les journaux fascistes apparaissent les premiers signes d'antisémitisme. Les Juifs sont accusés de vouloir dominer le monde. En 1936, lorsque la Société des Nations prend des sanctions économiques contre l'Italie à la suite de la guerre italo-éthiopienne, la politique extérieure de Mussolini change radicalement et il se rapproche de plus en plus d'Hitler, tandis qu'en 1938, il continue de démentir qu'il existe une quelconque forme d'antisémitisme en Italie. Pourtant, des lois discriminatoires sévères sont promulguées, les lois raciales fascistes qui, entre autres, empêcheraient les Juifs de fréquenter les écoles publiques, d'y enseigner, de travailler pour le gouvernement, d'être propriétaires de grandes entreprises, de publier et de pratiquer un grand nombre de professions. Cela éclaire les aspirations totalitaires de Mussolini depuis la deuxième moitié des années 1930. Parmi celles-ci se trouvait le projet d'une révolution anthropologique à travers laquelle une nouvelle société et un nouvel homme fasciste devaient être formés par l'État, étant obéissant, agressif et prolétarien. Les Juifs étaient des obstacles à ce projet dans la mesure où ils étaient considérés comme inexorablement bourgeois et liés historiquement au libéralisme que le fascisme avait pour but d'entièrement surpasser.
Et voilà, notre podcast touche à sa fin. Je tenais à remercier tous nos intervenants pour leurs analyses. Nous espérons sincèrement que ces zooms historiques vous ont plu autant qu'ils nous ont passionnés. Nous tenons néanmoins à rappeler que ce podcast est à but informatif et qu'il est important de parler de ces sujets pour que ça ne se reproduise jamais. Le contexte actuel en Italie nous montre d'ailleurs que rien n'est jamais acquis. Il est maintenant temps de nous quitter. Nous vous remercions pour votre écoute et vous donnons rendez-vous pour notre prochain podcast.